Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La chanson française est à l'honneur cet après-midi avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Je pense que la chanson fait partie de notre histoire, comme l'ensemble des manifestations de ce qu'on appelle la culture populaire. Je pense tout particulièrement aujourd'hui à notre Coluche, même si nous ne sommes pas pour une fois dans le studio Coluche. Le dictionnaire amoureux de la chanson française de Bertrand Dical est un bonheur à lire et je suis heureux que son auteur ait pu nous rejoindre cet après-midi.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Stéphanie sur les origines du baccalauréat.
Eh bien, vous avez vu au passage que plusieurs sujets que nous avions évoqués sont tombés au bac d'histoire. Espérons que nos jeunes auditeurs y auront fait des étincelles. Pour le moment, je vous propose donc d'évoquer une des plus grandes dames de la chanson française, la plus grande même à mes yeux, j'ai nommé Barbara.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
Dans son dictionnaire amoureux, Bertrand Dical décrit l'émotion suscitée par les textes et les mélodies de Barbara. Peut-on avoir été adolescente sans être passée par Barbara ? Peut-on même avoir connu l'amour dans ce pays sans en trouver l'écho dans ses chansons, demande-t-il. Barbara a chanté l'absolu, la solitude, le mal de vivre, la douleur, le désir, le souvenir, la peur, la séparation, les retrouvailles, la trahison, la déréliction, l'amour obsessionnellement. Et dans la jubilation, l'extase ou le désespoir, les images qu'elle déploie sont comme un bréviaire d'amoureuse. L'on espère ou l'on reconnaît en soi les ravages ou les bienfaits de l'amour que Barbara a écrit dans ses chansons. On est le mal de vivre, on est à chaque fois, on est garde-lion. Il arrive même au cours de certaines vies que l'on se retrouve dans Vienne ou dans Marienbad. En un demi-siècle de carrière et après des débuts difficiles, la dame en noir, comme l'appelaient les médias, auteur, compositeur, interprète, fait partie de ces artistes qui parlent de la vie, de l'amour, de la mort avec une forme de pudeur et d'élégance très raffinée dans des textes qui parlent à tout le monde, même si tout le monde n'en est pas toujours conscient. Mais Barbara, ne l'oublions pas, a aussi été une artiste engagée, surtout dans les dernières années de sa vie. Nous sommes le mercredi 16 septembre 1987, à Paris, il est environ 20h, et une foule s'est précipitée au théâtre du Châtelet. Ce théâtre construit sous le Second Empire, le Châtelet, temple du lyrique, du classique et surtout de l'opérette à grand spectacle. Un public très varié, des jeunes et des moins jeunes, est venu assister à l'événement musical de l'année, le retour sur une scène parisienne, après six longues années d'absence de Barbara. Elle l'a annoncé au début de l'année, le Châtelet lui rappelle ses débuts. Ses débuts, c'était à l'Écluse, on en dira un mot tout à l'heure, dans les années 50. Toute la presse annonce le rendez-vous depuis des semaines et le célèbre théâtre fait salle comble. À 57 ans, Barbara a pris depuis quelques années un nouveau tournant dans sa carrière. En 1981, son album « Seul » a été un succès. Barbara a donné la même année à Paris une série de concerts sous un grand chapiteau porte de Pantin. Là se trouve aujourd'hui le Zénith, une salle qui habituellement était plutôt réservée au rock. Or, c'est au cours de ce récital à Pantin que, chose affreuse, la voix de la chanteuse s'est brisée irrémédiablement. Certains soirs, elle s'est retrouvée presque à faune, ce qui a d'ailleurs donné une tonalité particulière à ses derniers récitals. Mais enfin, c'était évidemment terrible. 1981 pour Barbara, c'est aussi l'année de son engagement derrière la candidature de François Mitterrand. Elle sera par ailleurs une des premières artistes à se mobiliser contre le sida, dont le virus est découvert en 1983. Elle écrit une chanson sur le sujet « Sida, amour à mort ». Tout ça a peut-être permis à un nouveau public plus jeune et qui découvre cet artiste de la suivre, elle qui n'apparaît jamais à la télévision. Presque jamais. En 1982, Barbara reçoit à l'Opéra de Paris pour sa contribution à la culture française le Grand Prix National de la Chanson. Eh bien, c'est durant cette première partie des années 80 que l'artiste se lance dans le projet d'une comédie musicale, Lily Passion, un projet ambitieux, extrêmement coûteux. Barbara y interprète une chanteuse qui se retrouve face à son assassin, interprété par Gérard Depardieu. Lily Passion est jouée à Paris, la troupe ensuite part en tournée dans toute la France. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un succès. Mais revenons donc à ce soir du 16 septembre 1987. Il est à présent un peu plus de 20h30 au Théâtre du Châtelet. Soudain, le rideau s'ouvre et sous les applaudissements, Barbara, qui a passé dans ce théâtre toute la journée, elle est arrivée tôt le matin, Barbara apparaît sur scène vêtue de noir, comme toujours, de la tête aux pieds. Le noir, a-t-elle dit, est une couleur de fête, de soir, de nuit, de flamboyance, de dignité, de danger, de séduction, de chagrin aussi. Barbara s'assoit derrière son fidèle piano noir. Quatre musiciens l'accompagnent, dont Marcel Azola à l'accordéon et au bandoneon. Et en première partie, on va l'entendre interpréter toutes ses grandes chansons. Marianne Bad, justement, L'homme en habit rouge, une petite cantate en hommage à son amie pianiste morte dans un accident de voiture en 1965. Au bois de Saint-Amand, un titre qu'elle confiera avoir écrit en dormant. Elle a dit ça à l'écrivain Jacques Tournier. J'ai fait comme ça, là, 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 et le lendemain, j'ai écouté le magnétophone, je l'ai à portée de main. Il y avait la chanson sur la bande, dit-elle. Enfin, deux phrases comme ça. Jean-Daniel Belfond raconte. Elle se lève en pleine nuit avec à l'esprit une ritournelle entêtante qui hésite à se déployer. La somnambule s'installe alors au piano et une fois l'appareil déclenché enregistre une ou deux phrases mélodiques puis se recouche et le lendemain elle en a tout oublié. C'est par hasard qu'elle tombe ou ne tombe pas. Il peut sombrer dans l'oubli pendant des mois sur le bout de musique figé là. C'était sa façon à elle de composer. Ça fait partie, disons, de la légende en tout cas. La seule chanson nouvelle du récital, c'est « Sida, amour à mort », donc la chanson sur le sida. En seconde partie, Barbara interprète d'autres classiques, « Mon enfance, ma plus belle histoire d'amour » dédiée au public. Et puis « L'aigle noir », évidemment, sorti en 1970 et qui évoque à mots très couverts un inceste avec son père. Premier rappel, Barbara chante Nantes, qui justement parle de la mort de son père, Jacques Serre. Il avait quitté le domicile familial. On en dira un mot tout à l'heure avec Bertrand Dical. Et puis vient Göttingen en référence à son séjour dans cette ville d'Allemagne en 1964. Elle qui a été une enfant juive cachée pendant la guerre et qui partait à Göttingen non sans réticence. La salle est debout, elle l'acclame. Encore un rappel et cette fois, elle va chanter « Dis, quand reviendras-tu ? »
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
C'est la chanson qui ouvre son quatrième album, qui lui donne son nom en 1964, Barbara sur Europe 1 avec « Dis, quand reviendras-tu ?» On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur les dernières années de la vie de la Dame en Noir et après sa série de concerts couronnée de succès à Paris.
Et oui, 23 représentations au Châtelet, dont les rappels pour certaines soirées durent plus d'une heure. Ça devient une sorte de phénomène. Elle revient, elle est acclamée. Ce triomphe au Châtelet en 1987 donne le signal d'une tournée à travers la France, mais aussi en Suisse, au Japon, au Canada, en Israël. Et à chaque fois, c'est le même triomphe. Elle sait que chaque date, chaque concert, chaque tournée est une nouvelle épreuve, car elle est de plus en plus fatiguée. Il faut se remettre en cause tous les soirs. À son ancienne assistante Marie Chey, elle dira « Le succès n'existe pas. Cela se refait chaque soir. Un soir efface la veille. Je ne suis pas une grande dame de la chanson. Je ne suis pas une tulipe noire. Je ne suis pas un poète. Je ne suis pas un oiseau de proie. Je ne suis pas mystérieuse. Je ne suis pas désespérée du matin au soir. Je ne suis pas une mante religieuse. Je ne vis pas dans les tentures noires. Je ne suis pas une intellectuelle. Je suis une femme qui vit, qui respire, qui aime, qui souffre, qui donne, qui reçoit et qui chante. » 1988 sera en quelque sorte l'année des récompenses. Barbara reçoit la Légion d'honneur, elle également la médaille de l'ordre du mérite fédéral allemand au nom de l'amitié entre les peuples, pour sa chanson justement Göttingen. Du 6 février au 14 avril 90, elle reviendra sur scène au théâtre Mogador, cette salle qui avait été créée par Alfred Booth, vous savez, par ce financier britannique, juste après la Première Guerre mondiale, sur le modèle du plus célèbre musical londonien, le Palace. Barbara a déjà joué à Mogador, déjà chanté 19 ans plus tôt. Quand je dis chanté, c'est vraiment jouer le terme, parce qu'elle était figurante à l'époque dans Violettes impériales, l'opérette. Depuis son dernier concert au Châtelet, elle présente de nouvelles chansons égrenées entre les classiques de son répertoire. Parmi ses nouveaux titres, Gauguin, une lettre à Jacques Brel, décédé aux îles Marquises en 1978, qui nous rappelle de très récents souvenirs ici. Et puis, alors Brel a été l'un des grands complices de Barbara à ses débuts. Elle se sert aussi de ce spectacle pour défendre des causes. Dans Rêveuse de parloir, elle raconte la vie difficile des femmes en prison. Le texte de Colline évoque la drogue. Elle parle également aussi, évidemment, beaucoup du sida. Et d'ailleurs, à la sortie de ces spectacles, il y a des préservatifs qui sont mis à la disposition du public, ce qui à l'époque faisait scandale. Depuis plusieurs mois, Barbara est très engagée dans cette lutte contre le sida qu'elle voit comme un grand mal d'amour, dit-elle. À la même période, elle rend visite aux malades dans les hôpitaux. Elle va également à leur rencontre dans les prisons, au Baumettes, à Marseille, mais aussi à Fresnes, à Fleury-Mérogis, à Rennes. Elle a même ouvert une ligne téléphonique confidentielle pour que les malades du sida puissent l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et quand on sait qu'elle était totalement insomniaque, on devait pouvoir lui parler tranquillement la nuit. Après Mogador, Barbara part donc en tournée, je vous l'ai dit, en France, au Japon. Elle va publier également un livre cassette où elle lit les lettres à un jeune poète de l'écrivain allemand Rainer Maria Rilke. En 93, novembre 93, elle revient sur la scène du théâtre du Châtelet. Encore une série de concerts, ça devient difficile avec cette voix qui de plus en plus lui fait défaut. Et sa présence médiatique, pour être discrète, n'en est pas moins très forte, comme en creux d'une certaine manière. Alors pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas à la télé ? Elle s'en explique dans une interview à l'Express. « J'aime l'image des autres et j'aime le noir et blanc, dit-elle. Je n'aime pas mon image et je ne peux pas laisser ma vie se réduire à 3 minutes. Il faudrait que j'accepte de m'abandonner. Et puis, j'ai déjà un profil dur, imaginez-le en couleur. Imaginez-moi invité au journal de 20h, ce western de la mort, et annoncé après la guerre en Bosnie. Eh bien, à partir du 6 novembre, je serai au Châtelet. Aujourd'hui, tout semble dérisoire, dit-elle, indécent, y compris chanter. Il y a comme un sanglot qui ne passe pas. » Marianne Bad, au bois de Saint-Amand, Madame, sublime chanson, ma plus belle histoire d'amour, le mal de vivre, l'aigle noir, Göttingen, Nantes, dit quand reviendras-tu, tous les classiques sont chantés, moment d'émotion lorsque le public avec elle est le plus légèrement possible pour un public qui chante à l'unisson, quand le public avec elle reprend une petite cantate.
Une petite cantate du bout des doigts. Obsédante et maladroite monte vers toi une petite cantate que nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas
pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, simile, ressordofa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile.
Seulement au bout de quelques semaines, alors que le spectacle doit durer jusqu'au 31 décembre, Barbara, totalement épuisée, doit reconnaître qu'elle a des problèmes respiratoires. Elle souffre d'une double pneumonie. Les représentations sont suspendues le 3 décembre. La chanteuse de minuit habite dans un hôtel proche du théâtre et des anonymes lui ont fait un chemin de rose, vous savez, entre le théâtre et l'hôtel. Une semaine plus tard, Barbara revient sur scène, mais deux jours plus tard encore, elle fait un malaise. Théâtrale, grandiloquente, pathétique, pantelante, heureuse, inquiète, nous dit Bertrand Dical. Barbara bouleverse, dérange, agace, enthousiasme. Mais la voix épuisée, le cœur fragile, elle doit renoncer au bout de quelques semaines. Billet remboursé, le rideau se baisse et Barbara est hospitalisée.
Barbara est au cœur de l'histoire cet après-midi. Admirateur de la chanteuse ou simple curieux, n'hésitez pas à poser vos questions à Franck Ferrand via sa page Twitter ou avec le hashtag ACDH. Nous vous attendons également sur la page Facebook de l'émission ou réagissez par mail sur europe1.fr. Nous serons de retour dans un instant au cœur de l'histoire pour continuer de parler de cette grande icône de la chanson française qui était Barbara sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Barbara est au cœur de l'histoire et après des années de représentation, la chanteuse, pourtant malade, repart en tournée.
Eh oui, c'est-à-dire qu'on a été obligé d'abandonner le tour de chant en cours. Hein, ça s'est très mal passé. On a été obligé de rembourser les spectateurs du Châtelet. Et puis la tournée, néanmoins, va reprendre. Barbara ne veut pas abandonner comme ça son public. Elle est très faible pourtant. Les médecins le lui déconseillent. Les assureurs refusent de prendre la tournée en charge. Qu'à cela ne tienne, la tournée commence à Massy, en banlieue parisienne. Et pendant deux mois, elle va chanter comme ça. Jusqu'à Tours, le 26 mars 1994, dernier concert de la tournée. Elle descend dans le public au milieu du spectacle. Ma plus belle histoire d'amour, chantait-elle. C'est vous en parlant au public. C'est quand même extraordinaire parce que deux mois plus tôt, personne n'aurait imaginé qu'elle finirait cette tournée. Eh bien si, elle a fini. Les gens qui sont là à Tours ce soir-là, ce 26 mars 1994, sont loin d'imaginer que ce sera la dernière fois que Barbara est montée sur scène. Après 46 années de spectacle quasiment ininterrompu, elle ne se donnera plus jamais en spectacle. On n'entend plus parler d'elle d'ailleurs pendant toute l'année 95. Elle vit plus ou moins recluse chez elle, à Précy-sur-Marne, vous savez, dans ce qu'elle appelle la maison douce, où elle vit entourée de ses chiens, de ses chats. Les spectacles l'ont exténuée. Elle continue à apporter son soutien aux malades du sida, bien entendu, mais aussi aux sans-papiers, aux sans-logis. À la fin de 95, après un an et demi de silence, à la surprise générale, elle appelle sa maison de disques et elle annonce qu'il y a de nouvelles chansons. Son 12 titres sur lesquels elle travaille pendant l'été 96. Barbara est entourée de ses musiciens, notamment de l'accordéoniste Richard Galliano, mais aussi le violoniste Didier Lockwood, l'harmoniciste Jean-Jacques Milteau, Jean-Louis Aubert, l'ex-leader du groupe Téléphone, et puis Guillaume Depardieu, le fils de l'acteur, avec qui Barbara est devenue amie. L'enregistrement est difficile, la chanteuse s'interrompt, reprend, arrête, elle jette tout, elle se remet au travail, elle s'occupe elle-même des arrangements. Son 13e album, qui s'appelle Barbara, sort le 6 novembre 96. C'est le premier qu'elle publie, qu'elle fait paraître depuis 15 ans. Il me revient, évoque un souvenir tragique de son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, l'arrestation d'un jeune maquisard du Vercors, alors qu'elle était réfugiée, elle, avec sa famille. Une nouvelle chanson sur le sida, Le Couloir, et puis des chansons plus optimistes, comme Fax-moi, où Barbara déclame son amour pour le fax, un appareil qui, à l'époque, ne l'oublions pas, ça nous paraît un peu... C'est très vieillot, maintenant, le fax, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Ce nouveau disque est donc le chant du cygne de Barbara. Elle ne cache plus cette voix totalement cassée, parfois détimbrée, essoufflée. Dans une interview à Télérama, elle affirme « Quand ce disque aura pris son envol, je vais me reposer, regarder la douceur de l'automne et rester à l'écoute, en retrait, mais attentive. » Et dans un autre entretien, elle dit « C'est le dernier cri, le dernier silence. » Barbara est meilleure artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique 97. Elle ne vient pas chercher sa récompense. Elle avait déjà eu cette récompense 3 ans plus tôt d'ailleurs. Elle ne sort maintenant presque plus de Précy-sur-Marne. Elle commence la rédaction de Mémoire. Un jour de novembre 97, elle se sent encore plus mal que d'habitude. Elle est transportée à l'hôpital américain de Neuilly. Elle a ingéré, semble-t-il, des champignons mal conservés. Elle s'est plus ou moins empoisonnée. Les médecins parleront, je cite, d'un choc toxi-infectieux d'évolution foudroyante qui l'emporte. Le 24 novembre, Barbara est enterrée 3 jours plus tard dans le carré juif du cimetière de Bagneux, dans le sud de Paris. Elle reposera dans le caveau familial de la famille Brodsky, près de sa grand-mère, cette grand-mère Barbara, qui lui avait inspiré son nom de scène, bien entendu. En 1998, les mémoires inachevées de Barbara sont publiées sous le titre « Il était un piano noir ». C'est dans ce texte qu'elle raconte avoir été abusée par son père alors qu'elle était cachée à Tarbes avec ses parents. « J'ai de plus en plus peur de mon père », écrit-elle au présent. « Il le sent, il le sait, j'ai tellement besoin de ma mère, mais comment faire pour lui parler ? Et que lui dire ? Que je trouve le comportement de mon père bizarre ? Je me tais. Un soir à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur. J'ai 10 ans et demi, raconte-t-elle. Et plus loin, on lit ces lignes, de ces humiliations infligées à l'enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j'ai toujours ressurgi. Sûr, il m'a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d'être heureuse, une sacrée volonté d'atteindre le plaisir dans les bras d'un homme pour me sentir un jour purifié de tout, longtemps après.
Il avait les yeux couleur rubis. Des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé. On dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles, comme avant dans mes rêves d'enfant. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir.
L'aigle noir de Barbara sur Europe 1. Bonjour Bertrand Dical.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes venu avec dans vos bagages, si je puis dire, non seulement Barbara, mais tous les grands et les petits d'ailleurs, chanteurs et chanteuses qui ont fait le bonheur du peuple français depuis si longtemps maintenant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Barbara et les grandes légendes de la chanson française sont au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous recevez le journaliste, critique, spécialiste de la chanson Bertrand Dical. Il signe chez Plon le dictionnaire amoureux de la chanson française.
Et on a, à travers ce dictionnaire amoureux, un incroyable florilège de tous ces chanteurs, de toutes ces chanteuses qui nous accompagnent. C'est ce qu'il y a de magnifique avec la chanson. Vous abordez tout cela avec beaucoup d'intelligence, il faut dire, beaucoup de finesse, Bertrand Dical, comme d'habitude, j'allais dire. Vous êtes venu un certain nombre de fois déjà dans cette émission. Et au-delà, bien sûr, de tout ce que l'on sait, vous allez chercher ce que l'on sait moins, ce que l'on ne ressent pas toujours. Concernant Barbara, on était en présence d'une personne qui avait des brisures, des failles intimes, en vérité.
On ne savait pas. C'est d'ailleurs curieux de voir la différence qu'il y a entre aujourd'hui un fan de Barbara qui a, mettons, 25 ou 30 ans et des gens qui ont 50 ans, qui ont connu Barbara longtemps avant sa mort. C'est-à-dire que ce que vous disiez de l'Aigle Noir, ça a été...
On l'a découvert tout à fait après.
On l'a découvert après sa mort. Quand elle révèle... page 26 de ses mémoires inachevées, le viol par son père, et soudain on reprend les chansons, on reprend Mon enfance, on reprend Au cœur de la nuit, on reprend L'Aigle noir, et soudain on comprend. Parce que L'Aigle noir, au début des années 70, là on l'entendait avec cette batterie électronique, les arrangements de Michel Colombier, on est en pleine période prog-rock française. Donc il y a des groupes comme Triangle, comme Ange, qui chantent des espèces de rêves, d'images, de visions, etc. Donc L'Aigle noir, ça faisait partie de ça. Et si on réfléchissait à ce que voulait dire L'Aigle noir, on disait un aigle noir qui revient, c'est le retour du fascisme, c'est le retour du nazisme, et dans l'imaginaire de l'époque, et en plus Barbara ne disait pas non, puisque Barbara refusait systématiquement de donner des explications à ses chansons, donc effectivement, elle avait dit ce qu'elle avait à dire, ce qu'elle
chansons, ça ne s'explique pas.
Voilà, ça ne s'explique pas. Et puis surtout, elle disait, dès qu'on lui posait une question, il y a comme ça une archive télé qui est absolument extraordinaire, on lui pose une question un peu directe, et là, on a l'impression de voir un oiseau complètement affolé qui vient de tomber du nid. Elle roule des yeux énormes, elle a l'air paniquée, on la voit, on voit presque les palpitations de son cœur. Elle dit, mais non, mais il ne faut pas me poser des questions comme ça. Quand ça arrive une fois, rassurez-vous, les journalistes ensuite ne pose plus jamais de questions personnelles.
Oui, bien sûr.
Et c'est ça, c'est rester son secret jusqu'après sa mort.
Une sorte de jardin secret qu'elle défendait farouchement en allant très peu dans les médias. À propos de L'Aigle noir, j'ai toujours été étonné qu'on ne fasse pas d'allusion au célèbre texte de Freud sur un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, où il y a justement un aigle noir qui vient se poser sur un berceau, etc. Il y a quasiment une transposition, à mon avis, dans cette chanson. Enfin, ça nous entraînerait très loin. Pour ce qui est des débuts de Barbara, on pourrait presque dire qu'elle est venue à la chanson sans aucune formation. Elle est une autodidacte.
C'est un enfant à problème, comme on dit. Elle est dans cette époque qui, rétrospectivement, est bien heureuse, mais elle a quand même mangé de la vache enragée, et beaucoup. Elle est dans cette époque où... les gamins qui n'arrivent pas à l'école, qui ne se sortent de rien, arrivent quand même à s'en sortir. Alors elle va s'en sortir en partant en Belgique. Elle chante, elle est un peu comédienne. Elle racontera elle-même qu'elle essaie de se prostituer, mais que ça dure même pas une heure. Elle se marie avec un tout jeune avocat. C'est une vie entre la vie de bohème, la vie de patachon, et la vie d'une fille qui a vraiment, vraiment des gros problèmes. Et la chanson, c'est un très long chemin. C'est-à-dire que on parle de Barbara, le fameux album avec Dis quand reviendras-tu, mais il y a avant des albums d'interprètes. Son premier album, c'est un album de chansons de Brassens, puis un album de reprises de chansons de Brel. C'est quelqu'un qui vit dans le monde des cabarets. Vous parliez tout à l'heure de L'Écluse. L'Écluse, elle y débute en 58. Elle devient la fameuse chanteuse de minuit, la principale attraction du cabaret L'Écluse. Mais avant, elle a 5 ou 6 ans de cabaret avant, où elle gravit petit à petit, marche par marche. Elle passe de une chanson en début de programme à 2 chansons, puis 3 chansons. C'est une école extrêmement dure, extrêmement violente, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier, on a la nostalgie, la mélancolie des cabarets de la rive gauche, mais c'était quand même un univers d'une dureté,
un peu sordide,
d'une
parfois,
violence,
oui, oui.
Et parfois même un peu franchement sordide. Mmh. Et donc elle sort de là, elle émerge de là, et quand elle émerge en 64-65, quand elle devient vraiment connue du grand public, elle a derrière elle presque 10 ans de carrière déjà.
J'ai commis tout à l'heure une erreur, moi je ne pourrais pas du tout faire un dictionnaire amoureux de la chanson, ça c'est sûr. J'ai dit que Jacques Brel était mort aux Marquises, c'est pas tout à fait vrai.
Enterré, hein,
il est enterré aux Marquises, il y a vécu la fin de sa vie en fait. Mais il est mort dans un hôpital en région parisienne, si
oui,
je ne m'abuse.
En région parisienne, absolument.
Jacques Brel a fait partie de ses camarades de jeunesse et au moment des Vaches Maigres.
Oui, et puis ensuite, ils ont été fidèles l'un à l'autre. Par exemple, Barbara est le premier rôle féminin de France, le premier film que Brel a réalisé après avoir quitté la carrière de la chanson. Et ils sont de la même école. Cette école à la dure, cette école des Vaches Maigres, autant de l'eau et du pain noir, comme elle dit dans une de ses chansons. Et Jacques Brel est un de ses héros, et quand elle chante Jacques Brel, elle chante pas le grand classique Jacques Brel, elle chante quelqu'un qui est un jeune artiste de maintenant. C'est comme si Jeanne Chéral chantait Vincent Delerme. Elle chante un jeune artiste qui a du succès depuis 2 ou 3 ans.
Alors là, nous parlons, et parce que très vite elle va se mettre à chanter ses propres chansons, d'ailleurs elle l'a fait dès le début, nous parlons d'un auteur, compositeur, interprète. Il y a comme ça dans la chanson française un certain nombre. Si je vous propose aujourd'hui de ne parler que de ces auteurs, compositeurs, interprètes. Il est évident qu'il y a beaucoup de très grands interprètes tout seuls ou de très grands auteurs. Tout ça est dans votre dictionnaire amoureux. Je ne voudrais pas réduire le dictionnaire aux auteurs, compositeurs, interprètes, mais ce sont ceux sur lesquels on va s'attarder aujourd'hui. Vous avez prononcé le nom de Brassens. C'est un peu leur père à tous d'une certaine manière. Enfin, pas le père, le petit frère pour certains aussi.
En tout cas, c'est
l'exemple accompli.
C'est l'exemple accompli. Parce que Brassens, c'est l'auteur-compositeur-interprète idéal, parce que c'est un interprète irremplaçable. Personne ne chante comme Brassens, ni même n'ose chanter comme Brassens, de cette façon tellement en deçà de la mélodie, une espèce de parler-chanter qui fait que souvent Brassens n'est pas le meilleur interprète des chansons de Brassens. Il y a plein de gens qui chantent mieux Brassens que Brassens, et lui-même le disait. C'est un auteur extraordinaire en ce sens que il va à la fois synthétiser des siècles de poésie française. Il y a du Ronsard, il y a du Baudelaire, il y a du Prévert, il y a du Maurice Carême, il y a des dizaines de poètes que l'on entend derrière la voix de Brassens, et en même temps c'est la voix du peuple. Et en même temps, il met des mots de tous les jours, il met des mots extrêmement rares et des mots de tous les jours, et tout ça sur des mélodies qui ont l'air de ne pas exister. C'est ça le génie de Brassens. Et un jour Brel...
Oui, on dirait presque du récitatif, alors oui. Que finalement toutes ces mélodies sont bien distinctes.
Hein. Et un jour, comme Brel avait dit dans une émission de télé, un de ses confrères qui disait « Oui, mais Brassens, c'est toujours un peu les mêmes mélodies, c'est pom 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 pom. » Et Brel lui dit « Mais qu'est-ce que tu crois? Si Sidney Bechet joue du Brassens, c'est à cause du texte. » Et on a tous fredonné du Brassens, on a tous siffloté du Brassens, et c'est à la fois tout. C'est à la fois un interprète exceptionnel, un auteur exceptionnel, et un compositeur fabuleux, plus l'homme. Le personnage Brassens.
Georges Brassens, écrivez-vous, a cette capacité singulière à remplir le même rôle dans des vies infiniment diverses, sans doute parce que vigoureusement politique, vigoureusement moraliste, il se refuse pourtant à indiquer un chemin. Il parvient à être à la fois le sale gosse et le bon père, l'immuable et la révolution, la fureur et l'apaisement, la rigueur et l'indulgence, la révolte et la bonhomie. Comment aurait-il pu ne pas s'installer à jamais dans notre mémoire? Et c'est vrai qu'il est là et qu'il est présent, incontestablement.
Il est présent, et puis bon, moi je dis souvent, c'est une boutade. Avant, je disais ça dans les repas avec les copains. Je disais que j'ai été élevé par mon père, ma mère et Georges Brassens. Et il m'est arrivé tellement souvent que des gens me disent « Mais c'est vrai, moi aussi, c'est la sensation que j'ai. Nous sommes aussi ce peuple-là. Nous sommes aussi le peuple des gens élevés par Brassens, dans lesquels vous rencontrerez des généraux de gendarmerie, des professeurs de français, des poètes, des rebelles, des ermites. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que à la fois, ça nous dit le génie de Brassens, mais ça nous dit aussi la singularité de ce que nous sommes, nous français francophones, dans notre rapport à la chanson.
Dans un instant, si vous le voulez, Bertrand Dical, on va faire un tout petit peu d'histoire et revenir à l'origine de ces auteurs, compositeurs, interprètes. Et puis, nous évoquerons deux très grands noms, Charles Trenet et Charles Aznavour.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, le tendre amour de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Et du plus loin qu'une mention.
souviennent si depuis j'ai dit je t'aime. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
C'est le nom de son 8e album paru en 1967, Ma plus belle histoire d'amour, chantée par Barbara sur la scène du Châtelet en 1987.
On entend justement cette voix qui déjà lui fait défaut et cette déclaration d'amour sans cesse renouvelée au public. Alors, faisons un peu d'histoire, Bertrand Dical. Depuis quand peut-on parler en France d'auteur, compositeur, interprète? Il y avait déjà au XVIIe siècle des gens qui composaient leurs chansons et qui les chantaient. Hein, mais
absolument.
Depuis quand est-ce qu'on peut parler de cette notion moderne d'auteur, compositeur, interprète?
Vous le dites, c'est moderne. C'est les années 50. C'est-à-dire que avant Félix Leclerc qui vient du Québec,
oui,
puis
sûr. On en dira un mot, tiens,
on découvre en 1950 en France, puis en 52 la révélation de Georges Brassens. Avant, il y a des gens qui font tout. Alors évidemment Charles Trenet, un auteur, compositeur, interprète totalement oublié aujourd'hui qui est Jean Tranchant. Bon, il a écrit le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. Mm-hmm. Effectivement, c'est quand même pas mal.
Qu'on continue de chanter.
Mais lui, les chansons qu'il écrivait et composait pour les chanter étaient parfois plus sombres, plus noires, plus âpres qu'on plainte de Kessouba, par exemple. Mais avant, il y a un personnage à la fois important et totalement oublié, qui est Gustave Nadeau. Au 19e oui. siècle. Il nous reste de lui le fait qu'on désigne un gendarme sous le nom de Pandore. Pandore, c'est le nom qu'il donne à un gendarme complètement idiot dans une de ses chansons. Et c'est pour ça qu'on continue à dire les Pandores en parlant des gendarmes. Et Gustave Nadeau est sans doute la principale inspiration de Georges Brassens. Il y a une trentaine de chansons de Georges Brassens dans lesquelles on voit d'infimes échos ou des mots, des petites expressions qui viennent des recueils de chansons de Gustave Nadeau. Et Gustave Nadeau, pendant tout le Second Empire et le début de la Troisième, est vraiment l'auteur, compositeur préféré des Français. Mais c'est exactement l'inverse des compositeurs d'aujourd'hui, des chanteurs d'aujourd'hui. Ils ne chantent que dans les salons, jamais dans les théâtres. Ils refusent d'être payés en droit d'auteur. C'est exactement le contraire d'un chanteur moderne. Ouais. Donc c'est vraiment avec Brassens.
Ils refusent les droits d'auteur, ça, c'est,
oui.
C'est pas banal, ça.
Pas un mot, surtout. C'est pas un exemple. Et ça explose vraiment avec Brassens, parce qu'un auteur, compositeur, interprète à la française, oui. c'est aussi quelque chose de très personnel.
C'est vrai.
C'est quelqu'un qui se montre soi-même, qui parle à la première personne.
C'est explose avec Brassens, mais le plus grand succès de l'histoire de la chanson française, ça reste Charles Trenet. Et d'ailleurs, c'est bien à lui qu'on essaie d'une façon ou d'une autre de ressembler pendant longtemps. C'est Jacques Brel qui disait, sans lui, nous aurions tous été experts comptables.
C'est vrai que si on prend Charles Trenet, prenons des jeunes artistes qui découvrent Trenet dans leur jeunesse ou leur enfance. On a Brassens, on a Gainsbourg, on a Anne Sylvestre. On est quand même là, on a Jacques Brel. On est effectivement dans des imaginaires extrêmement forts. Et il y a, si on veut symboliser Charles Trenet, prenons un vers dans une chanson dont il y a de la joie, la tour Eiffel part en balade.
Comme une folle, elle saute la scène à pieds joints.
Exactement, vous vous en souvenez bien, la tour Eiffel part en balade. C'est une folie, c'est-à-dire que ça nous paraît une évidence aujourd'hui, parce que depuis on a eu les Beatles et Lucy in the Sky with Diamonds, mais il n'y a pas de Beatles sans Charles Trenet. Il n'y a pas cette liberté absolue de dire ce qu'on veut dans la chanson. Jusque-là, la chanson était un art raisonnable, la chanson était un art réaliste, la chanson n'allait pas chercher midi à 14h. Et Charles Trenet trouve, c'est l'œuvre de Colomb, c'est la pierre philosophale. Il dit, allons chercher midi à 14h. Racontons n'importe quoi, racontons ce qu'on veut. La tour Eiffel part en balade et à partir de là, ça explose.
Là, c'est l'époque du surréalisme et il y a quelque chose d'un peu noir et d'un peu sombre parfois sous l'apparence joyeuse des chansons de Charles Trenet. Hein, c'est assez...
Oui, il y a, si je me souviens bien, il y a 7 suicides dans les chansons de Charles Trenet. Voilà. Il y a des dizaines d'homicides, mais je chante, qu'on connaît tous, hein, je chante soir et matin. Il raconte qu'il est enfermé par les gendarmes et que ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Il va se pendre et comme il s'est pendu dans sa cellule, depuis je suis le fantôme rigolo qui court et je chante soir et matin.
Ouais, c'est quand même c'est toute l'ambivalence de cet art là. Je me rappelle pour les 80 ans de Charles Trenet, c'était dans la salle toute neuve à l'époque de l'Opéra Bastille. Et il y a un autre grand chanteur qui est monté sur scène et qui a fait une véritable déclaration d'amour à Charles Trenet. C'était l'autre Charles, c'était Charles Aznavour, qui lui aussi joue un rôle très important dans cette histoire-là.
Si on demande aujourd'hui, encore une fois, un jeune homme et surtout un jeune artiste, prenons un artiste qui a une trentaine d'années, et d'où qu'il soit du hip-hop, du rock, de la chanson, on lui dit le chanteur français classique, le chanteur français étalon, c'est qui ? Bah, c'est Charles Aznavour. Et il se trouve que Charles Aznavour, pendant longtemps, n'a pas été un chanteur. Pas qu'il faisait un autre métier, non, il chantait, il enregistrait des disques, il montait sur scène, mais on ne le reconnaissait pas comme chanteur. Si on prend fin 1961, le moment où Charles Aznavour devient une star, devient vraiment énorme, c'est avec la chanson « Je me voyais déjà », c'est un fameux concert à l'Alhambra en décembre 61, où vraiment il explose, sa carrière monte à la verticale, alors que ça fait une quinzaine d'années qu'il a démarré. Il y a le critique du Figaro de l'époque, Paul Carrière, qui écrit... Et je me souviens de cette phrase tellement elle est extraordinaire. Avec le moulin à poivre qui lui sert de gosier, il n'est pas ce que l'on appelle encore un chanteur. C'est-à-dire que 61, ce n'est pas un chanteur. Mais 2-3 ans plus tard, tout le monde dit Aznavour, le grand classique, la chanson à la Aznavour. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est aussi ça qui est extraordinaire avec la chanson française. C'est que dans la chanson française, vous êtes un révolutionnaire le vendredi soir, le lundi matin dans les journaux, vous êtes devenu un classique. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que si on regarde tous ces grands ancêtres, tous ces grands maîtres de la chanson, ils ont tous été scandaleux et tous ont été récusés. Brel, Brassens, Ferré, Gainsbourg, Aznavour, tous, à un moment, ont été rejetés par le métier.
Vous parliez de Delerme tout à l'heure, on pourrait citer Benabar, enfin un certain nombre des chanteurs actuels. On parle dans tous ces cas-là de chansons à texte. C'est une spécificité française, ça, cette chanson dite à texte.
Ce qui est une spécificité française, c'est de dire à texte.
Oui, voilà.
C'est ça, la spécificité française. C'est-à-dire que des chansons bavardes, vous prenez le blues, vous prenez le folk américain, il y a du texte, du texte. Le hip-hop, le rap, il n'y a rien qui produise autant de textes qu'un rappeur, même si on ne le considère pas comme un chanteur à texte. Ce qui est intéressant dans notre rapport, nous, à la chanson, c'est que on a cette idée d'une espèce de noblesse de la chanson qui serait meilleure quand il y a des mots compliqués, qui serait meilleure quand il y a des formules poétiques savantes. Alors oui, c'est un peu le défaut et la splendeur de notre culture et le fait que la critique, nous-mêmes journalistes, nous-mêmes quand nous regardons ce qu'écoutent nos enfants, on a un peu tendance à dire que la chanson commerciale est facile. Ben, c'est pas bien, il vaut mieux de la chanson un petit peu difficile qui nous oblige à réfléchir. Mais si on fait retour en soi-même, on aime tous effectivement Brassens. Et puis, ça peut être Clo-Clo, ça peut être Beyoncé, ça peut être
Michel Berger et France Gall.
Ça peut être Michel Berger et France Gall.
Sur le cas desquels j'ai eu l'occasion de me pencher pendant quelques mois, là, et j'ai découvert l'extraordinaire travail qui peut y avoir aussi derrière tout ça. Il faudrait pas croire que... Alors c'est vrai que Charles Trenet a beaucoup fait pour donner l'image du compositeur, auteur, interprète... qui écrit comme ça sur le coin d'une table pendant 3 minutes et qui va faire un succès international. Mais c'est pas ça la réalité.
C'est pas ça la réalité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Berger, personne ne dira que c'est un auteur à texte. Pourtant, dans Résiste, il y a ce vers, ou c'est peut-être 2 vers, mais je sais plus, mais il y a ce vers extraordinaire. Pourquoi tant de liberté pour si peu de bonheur? Sujet du bac, vous avez 4 heures. Pourquoi tant de liberté pour si peu de bonheur?
C'est peut-être l'exergue de notre époque, ça, oui. Et puis, puisque nous parlons du texte, et oui, dites-vous à propos de Léo Ferré, sous l'immense culture et la remarquable technique poétique, il y a une science unique du composite de l'impur et de l'hétérogène. C'est d'ailleurs comme cela que Ferré va avancer, de forme en forme, de révolution en révolution, de liberté en liberté. L'argot avec la syntaxe du Parnasse, la chanson en forme de tract, le parler et le chanter, le discours et la ritournelle, le savant et l'instinctif. Une sorte de poésie engagée, là, pour le coup, chez Ferré.
Chez Ferré, il y a tout. C'est-à-dire qu'il est fasciné par Mallarmé, il est fasciné par les grands poètes, il est fasciné par Rimbaud. Et régulièrement, d'ailleurs, il a ce courage extraordinaire de se mettre derrière. Il a le courage d'enregistrer Aragon, alors que il est lui-même reconnu, Léo Ferré, comme un grand auteur. Il enregistre Aragon, il enregistre Baudelaire, il se met au service des poètes et en même temps, lui, il écrit des choses qui sont parfois absolument sublimes. On écoute avec le temps, mais c'est bouleversant.
C'est magnifique, oui.
On lit le texte d'avec le temps, mais alors là, c'est lacrymogène à un degré incroyable. C'est un des plus bouleversants poèmes de souffrance amoureuse de la littérature française. Et en même temps, il écrit des choses d'une folie furieuse. Moi, mon premier souvenir de gosse de Léo Ferré, la première chanson que j'ai connu par cœur de Léo Ferré, c'est la solitude. Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de travers. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Enfin, toutes sortes de choses qui sont une espèce de poésie de fin de troisième, début seconde, qui est quand même comme ça, enflé, gonflé, surévalué. Et c'est ça qui est fabuleux chez Léo Ferré.
C'est le côté composite, c'est vrai.
C'est qu'il y a des joyaux absolument extraordinaires et des choses d'une
certaine trivialité. Oui.
Mais c'est ça qu'on aime aussi chez Léo Ferré, c'est cette démesure.
Vous êtes en train du reste d'écrire, vous, sur Gainsbourg en ce moment, c'est ça?
Oui. Enfin, je viens de finir. J'ai fait un gros livre qui s'appelle Tout Gainsbourg, qui fait dans les 1000 pages. Et Gainsbourg est un personnage très singulier, à la fois pour ce qu'il est, mais pour ce que nous en faisons. Gainsbourg est devenu un génie après sa mort. C'est-à-dire que à la mort de Gainsbourg, souvenez-vous, en 1991, les journalistes qui vont au cimetière du Montparnasse, les équipes de télé qui sont rue de Verneuil devant sa maison et qui voient les fans, sont complètement effarés. Disent mais qu'est-ce qui leur prend, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui se passe. Mais pourtant c'est Gainsbourg. Et ce qui est extraordinaire avec Gainsbourg, c'est 20 ans d'un succès. Jusqu'à l'album Aux Armes, etc. Puis 12 ans de polémique, 12 ans de scandale,
oui,
12
scandale,
ans de Gainsbourg.
Oui,
et au bout du compte, on réalise qu'à sa mort en 91, Jane Birkin et quelques fans pensent qu'il est un génie. Aujourd'hui, pas un président de la République, pas un premier ministre, pas un ministre de la République n'osera dire sur une radio, une télé ou même dans une rencontre avec quelques militants que non, Gainsbourg n'est pas un génie. Oui, Gainsbourg est un génie, Gainsbourg est enseigné dans les écoles et parfois il faut que les enseignants trient un peu.
Pas beaucoup de femmes dans tout ça, hein. J'en suis désolé là, mais on a fait une galerie de portraits de ces grands chanteurs français, il n'y a pas beaucoup de chanteuses, on a eu Barbara au début. Est-ce qu'on peut dire que parmi les auteurs, compositeurs, interprètes se range une certaine Édith Piaf?
Évidemment. Évidemment, et quand vous dites qu'il n'y a pas assez de femmes, je suis bien d'accord avec vous.
J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas assez, j'ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup.
Non, mais il n'y en a pas beaucoup, mais directement pas assez. C'est pour ça qu'on a choisi sur la couverture du Dictionnaire Amoureux de mettre Barbara, de mettre une femme.
Oui.
Parce que c'est aussi, il faut aussi que cette culture-là soit incarnée par la belle moitié de ce que nous sommes. Mais Piaf, effectivement, c'est un immense auteur. Pas oublier, hein. Elle est interprète, mais elle écrit La vie en rose et L'hymne à l'amour. Rien que ça, quand on est auteur, on rêve d'écrire ces deux classiques-là.
Et puis pas non plus énormément de chanteurs francophones étrangers. C'est pour ça que j'aimerais que vous disiez un mot de Félix Leclerc, puisque vous avez tout à l'heure cité son nom, Bertrand Dical.
Félix Leclerc, c'est pour nous francophones le premier des auteurs, compositeurs, interprètes, mais c'est également un folk singer américain. Lui, il vient de la forêt canadienne, il vient du monde québécois rural, francophone, mais dans lequel il y a des Irlandais, il y a des anglos, comme ils disent, hein, des anglophones, et des gens à guitare, et il incarne cette double culture des Québécois, qui est une culture totalement nord-américaine, dans la façon de vivre, dans la façon d'être, dans la façon de considérer le quotidien, et en même temps fécondée par la culture française. Et donc Félix Leclerc est un folk singer américain qui écrit des textes magnifiques en langue française, qui en 1950 vient en France, appelé par Jacques Canetti, et c'est là, pour un certain nombre de gens du métier, et pour encore un petit public, la découverte de ce qu'est un auteur, compositeur, interprète tout seul sur une scène avec une guitare.
Vous voulez que je vous dise, Bertrand Dical, nous allons recevoir énormément, ça c'est une prédiction que je fais, de mails, de gens qui vont dire « vous avez oublié un tel et un tel et un tel et un tel ». Alors à tout cela, avant même qu'ils écrivent, je dis « rendez-vous dans les pages du Dictionnaire amoureux de la chanson française de Bertrand Dical ». C'est édité chez Plon. Merci beaucoup.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand vous répondrait à la question de Stéphanie qui, il y a quelques jours de la fin du bac, voudrait connaître l'origine du baccalauréat.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question posée par Stéphanie via la page Facebook de l'émission. Et Stéphanie vous écrit, Franck Ferrand, c'est une étape quasi incontournable, mais son histoire est rarement évoquée. Pourriez-vous parler de l'origine du baccalauréat depuis sa création et de son évolution?
Baccalauréat, ce nom fait directement référence aux baies de laurier, hein, dont on coiffe les lauréats, comme leur nom l'indique. Il y avait quand même dans le vieux français ce nom de bachelier qui désignait le jeune homme qui aspirait à devenir chevalier. Donc c'est une vieille tradition. Alors, Tout ça naît au moment de la réinstallation, si je puis dire, des institutions par Bonaparte, hein, comme souvent, en l'occurrence même par Napoléon, puisque c'est le 17 mars 1808 que l'empereur fait rouvrir les universités, qui avaient été bien sûr supprimées au moment de la Révolution. Il réhabilite l'épreuve de la maîtrise des arts et c'est lui qui donne ce nom de baccalauréat. Les modalités de la première version du baccalauréat, ce sont uniquement des épreuves orales de philo, histoire géo et rhétorique, c'est-à-dire on dirait nous aujourd'hui français, pour des élèves d'au moins 16 ans. L'année suivante, donc 1809, 31 garçons essentiellement issus de la bourgeoisie, inutile de vous dire, deviennent les premiers bacheliers de France. Le baccalauréat est à cette époque une épreuve essentiellement littéraire. Alors, le bac de sciences, c'est 1821, j'ai eu l'occasion de le dire l'autre jour quand on parlait de nos révisions du bac d'histoire. 1830, première épreuve écrite. Les mentions apparaissent en 1840 et c'est Julie-Victoire Daubier qui, en 1867, Julie-Victoire Daubier devient la première bachelière de France.